C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a présenté un projet de loi pour mieux protéger les élus contre les menaces, le harcèlement, l'intimidation, quand ça vient principalement des citoyens. Quoique entre eux, des fois, ils sont pas pires non plus. On l'a vu dans certains conseils municipaux. C'est une amende maximale de 1 500 $. Est-ce que c'est suffisant, Luc?
Ah oui, largement. Puis, il faut dire aussi que il y a une injonction, une possibilité d'injonction. Donc, une injonction facilitée, le pro forma, qui va empêcher une personne de juger quérulente ou dangereuse ou qui aurait menacé la vie privée d'une personne ou qui aurait empêché la tenue de ses fonctions ou le déroulement de ses fonctions de ne pas pouvoir se présenter au conseil, à tout conseil d'administration sur lequel serait l'élu, à son bureau de comté. C'est bon aussi pour les députés. Il y a aussi une disposition qui donne deux pénalités de 1 500 $. Il y en a une qui est pour menacer la vie privée puis la vie publique puis avoir empêché les activités, puis l'autre qui est pour avoir perturbé le conseil. Et puis, il y a l'injonction. Alors, tout ça, c'est un arsenal. Il y a aussi une quatrième mesure qui est de pouvoir soutenir les élus qui seraient poursuivis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont poursuivis. Des fois, c'est la ville qui est poursuivie, dans auquel cas l'élu n'a pas à se défendre lui-même, mais il arrive que l'élu soit poursuivi personnellement aussi, pour 1000 autres pécadilles liés à un dossier. Donc, tout ça, ça va bien protéger les élus municipaux. Ceci étant dit, les attaques que les élus municipaux subissent de la part de personnes qui soient curilantes, hyper agressives, etc., c'est une toute petite partie des difficultés de la vie municipale. Il y a 10% des élus municipaux qui ont quitté la fonction depuis 2021. 800 personnes, c'est beaucoup de monde. Puis là-dedans, la liste des affaires qui te ruinent la santé, c'est pas juste les citoyens qui te disent t'es un pas bon, là, puis qui crachent dans ta direction. C'est beaucoup d'abord et avant tout l'impuissance. C'est de se rendre compte que t'es pas capable de faire ce que tu pensais que t'allais faire ou ce dont on s'attend à ce que tu fasses. Et cette impuissance-là est d'autant plus grande quand t'es minoritaire, comme la mairesse de Lille à Gatineau, où à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut que tu convainques les autres élus de voter pour toi. Et ça, c'est des courriels jusqu'à 2 h du matin pour changer un stop pendant des semaines. Alors ça te ruine. Après ça, il y a la rémunération. Après ça, il y a les conventions collectives que tu n'as pas signées, avec lesquelles tu es pris. Après ça, il faut se rappeler une chose. Un élu, ce n'est pas quelqu'un qui dit quoi faire à la fonction publique. Hein. C'est le directeur général ou la directrice générale qui dit ça. L'élu fait de la législation, il adopte les budgets, il nomme les personnes.
Nathalie.
Ben moi, j'ai envie de vous dire que la classe tolérante a été tolérante. Trop tolérante. À un moment donné, assez, c'est assez. Je félicite la ministre André Laforêt pour cette initiative. Les élus, il faut juste se le rappeler, ne sont pas des tapis de porte. Que tu sois à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes d'Ottawa ou à l'échelle municipale, là, les élus, nos élus, méritent le respect. C'est une question de protection, de protéger notre démocratie, puis c'est aussi une question de défendre nos institutions. Et je trouve que là, on est allé là où on n'est jamais allé auparavant, durant la campagne électorale de 2022. Juste vous rappeler qu'il y a 31 personnes qui ont été arrêtées pour avoir proféré des menaces à des élus, à des candidats, des candidates qui faisaient campagne partout au Québec. Au total, il y a eu 217 signalements qui ont été reçus, dont 66 comme des infractions criminelles. Et 40, puis dans ces 66 infractions criminelles, 47 crimes contre la personne puis 19 crimes contre la propriété. Écoute, quand tu es rendu à menacer de mort un élu, et je crois que les menaces de mort formulées à l'endroit de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Mais là, c'est de nature criminelle. Là. On est ailleurs. Là. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui est quérulent, qui est fatigant, mais là, c'est quelqu'un qui... Donc, il y a des accusations qui peuvent
être portées. Exactement. Mais tu vois, l'Assemblée nationale, parce que ce projet de loi-là, les dispositions qui ont été présentées par la ministre vont être adoptées par les députés, le message qu'envoient tous les députés de l'Assemblée nationale, c'est que la situation est devenue... à ce point problématique qu'il faut ajouter une couche aux dispositions, aux mécanismes qui existent sur le plan juridique pour, par exemple, accuser quelqu'un qui menace un élu. Alors, ils ajoutent la couche qu'ils ajoutent. C'est bon, tu l'as dit, possibilité de déposer une injonction en cour supérieure ou encore les amendes et les contraventions. Maintenant, est-ce qu'un élu municipal, dans les faits, va mieux se sentir protégé? Il faudra voir, parce que si tu es un élu à l'échelle municipale, puis tu te fais menacer ou par un citoyen, puis tu lui colles une contravention de 500 $ ou de 1 500 $, Est-ce que tu vas régler ton problème? Est-ce que tu vas envenimer le climat? Il y a quand même des précédents là qui risquent d'être posés avec ces nouveaux moyens que met le gouvernement à la disposition des élus. Mais clairement, moi, je trouve ça extrêmement préoccupant de vivre dans une société où le respect de nos élus prend le bord. Je vous disais il n'y a pas si longtemps, je n'ai jamais vu autant de, je m'excuse de le dire, fuck Legault, fuck Trudeau. Écoute, c'est des gens là qui ont des autocollants sur leur pick-up là, puis qui se promènent avec ça. On me disait il n'y a pas si longtemps, je connais quelqu'un qui est allé, qui s'est promené dans les villages ontariens, dans le sud de l'Ontario, puis il dit, j'ai jamais vu autant de pancartes sur les gazons de fuck Trudeau. Je veux dire, c'est sûr que des élus qui se font rabrouer par leurs citoyens, il y en a toujours eu, mais là, on a dépassé, en fait, les bornes, et je pense qu'on doit, comme société, dire assez, c'est assez, puis c'est exactement ce qu'exprime le gouvernement.
Moi, je suis d'accord avec toi sur cette catégorie de personnes qui jugent, puis qui sont souvent aussi alimentées par des médias, mais soit des médias sociaux. Mais tu sais que les médias peuvent faire un travail extraordinairement nocif à long terme, hein, comme un cas de médias nocif, toxique. Là, je veux pas faire de parallèle avec les nôtres. C'est le Rwanda. Hein. 30 ans de communication par les médias qui disaient les Tutsis c'est des hostiles, les Tutsis c'est ici, les Tutsis vous volent, les Tutsis ci, les Tutsis ça. Puis à un moment donné, la population tatao, tu sais, 30 ans, tous les jours.
Alors, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que c'est notre responsabilité en tant que médias.
Totalement.
Alors, c'est quoi notre responsabilité à nous?
Je pense qu'on en a une responsabilité. Nathalie, justement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de déterminer la part de l'élu. Comme là, dans le dossier suivant, tu vois que la part de l'élu, je la trouve grosse en maudit, là, les 5000 km de ligne, là. Tu vois ça. La part de l'élu est énorme. Puis je trouve qu'il y a des cachotteries des fois. Puis il y a des élus qui méritent la colère. La colère, c'est une chose, mais pour faire la meilleure façon de ne pas entrer dans la haine, c'est d'exprimer sa critique. C'est si tu dis je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas en conseil, t'es documenté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne t'aime pas la face parce que tu l'as pas dit que t'allais faire ça. Je crois ça, moi. Moi, je crois que ça va t'empêcher d'avoir de la haine. Parce que là, l'élu va se défendre, puis il va avoir un échange. Mais si tu t'arrives en disant, t'es un tabarnak, puis collissez-moi les dehors, hey, mon hostie de chien, parce que moi, j'ai vu ça, là. Et le problème, c'est pas quand il y en a un ou deux, hein. C'est que des fois, il y a un effet de gang. Un effet de gang où là, le conseil est rempli. Il y a 150 personnes devant toi, 250 personnes devant toi. Je me rappelle de l'affaire à La Salle. La mairesse, à l'époque, moi les noms, c'est que pourtant je l'aime bien, mais ça va me revenir. La mairesse de La Salle veut mettre une vignette devant l'hôpital, parce que devant l'hôpital, les gens se garaient devant les maisons, OK? Les maisons qui étaient proches de l'hôpital. Elle donnait 2-3 vignettes par personne, 2-3-4 vignettes par personne même. Puis à un moment donné, elle dit, à partir de 2, on va les facturer. T'as 2, parce que beaucoup de gens stationnaient leur gros véhicule de camping sur leur terrain de stationnement, puis ils avaient besoin de vignettes pour mettre leur voiture dans la rue. À un moment donné, elle dit, ça va faire. Elle dit, si tu mets ta voiture dans la rue, tu vas payer une vignette 50$ par année. 4 conseils de suite, 200 personnes dans la salle qui voulaient sa tête.
Oui.
Mais là, et ça, devant ça...
Mais ça, ça fait partie de notre démocratie.
C'est ça. Oui, mais après ça... Il essaie d'empêcher la tenue du conseil, l'empêcher de s'exprimer.
Mais là, ça, c'est pas correct.
Voilà, c'est là la limite. C'est que à partir du moment où tu ne lui laisses pas la possibilité de défendre son point, ben là, il n'y a plus d'échange. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut dire, il y a des élus qui jouent pas bien la game. Hein, parce que dans le conseil municipal, tu as le droit à 3 questions sur le même sujet. Il vient 200 personnes. En théorie, tu peux dire, non, il y a eu 3 questions sur le même sujet, les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Eh bien là, tu vas foutre le feu dans le building. Là. Moi, je pense, j'ai vu des élus, je l'ai fait moi-même, écouter toutes les personnes une par une. Si on sent, t'écoutes les 100. Ça va se terminer à minuit. J'ai vu beaucoup de conseils municipaux se terminer à minuit. Pourquoi? Mm-hmm. Au-delà même. Laisse-les s'exprimer. Si tu joues ton rôle, si tu joues le livre, puis tu dis après 3 questions, vous n'avez plus le droit de parler, puis c'est 1 minute par question, puis vous avez juste pas le droit à un complémentaire de 2 minutes portant sur un autre sujet.
Mais ça, c'est un angle intéressant. C'est-à-dire comment la responsabilité, à quel point les élus respectent leurs citoyens. On pourrait donner l'exemple de Sainte-Pétronille actuellement.
C'est pas Pétronille, son nom, c'est Barbe. Le nom de la mairesse.
Manon, oui. Non, mais Sainte-Pétronille, actuellement, sur le plan démocratique, ça ne va pas du tout. Les citoyens et les élus, là, écoute, ça se crêpe le chignon à chaque réunion du conseil. Ça, c'est un exemple où tu dis, ben voyons, les élus ont la responsabilité de respecter leurs citoyens. Mais moi, Luc, je n'accepte. D'ailleurs, là, je me dis, la prochaine fois que tu vas traiter un ministre
de Tarlat,
ben je vais m'objecter parce que moi, je pense qu'on ne doit pas faire ça. Tu peux t'en prendre à ses idées, mais traiter un ministre d'imbécile, d'idiot,
de menteur.
Moi, Luc, je vais te le dire, j'ai un inconfort avec ça. Moi, j'ai été une élue de l'Assemblée nationale, j'ai été une élue à l'échelle municipale. Tu peux me dire ce que tu veux par rapport aux idées que j'avance, par rapport aux dossiers que je défends, mais viens pas me traiter d'imbécile puis de ci et de ça. Moi, je pense que si on fait ça, on alimente ce discours de haine à l'endroit de nos élus.
On s'arrête là-dessus. Il y a personne qui s'en...
Oui, je m'en allais répondre. Tu m'as...
On sait que Luc veut absolument qu'un des kilomètres de nouvelles lignes de haute tension passe par chez lui. Il va nous dire pourquoi après la pause.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, Hydro-Québec va ajouter 5000 kilomètres de nouvelles lignes de haute tension sur le territoire du Québec d'ici 2035. Tout ça pour transporter l'énergie dont on a tant besoin, dont les entreprises ont besoin. Est-ce que c'est possible de le faire en ne massacrant pas trop le paysage québécois? Nathalie.
Ben c'est un défi. Le plus grand défi, en fait, un des plus grands défis qui soit, parce qu'il y a un défi lié à la main-d'œuvre, entre autres, qui est rattaché à ce méga investissement. Un élément de contexte important, l'ajout de 5000 km de lignes à haute tension s'ajoute, oui, à 34 000 km de lignes déjà existantes de transport, parce qu'on a un immense réseau de transport. Puis on a un immense réseau de distribution. Distribution, je vous le rappelle, 97 000 km. Transport, c'est 34 000 km, dont le tiers est à très haute tension. Je dis, c'est un défi et j'ajouterais, avant de se crier au scandale et de déchirer sa chemise, attendons de voir les détails qui seront fournis par Hydro-Québec. Parce que là, on sait qu'il y a, c'est Radio-Canada qui l'a révélé, il y a trois nouvelles lignes à haute tension. Une qui va partir de la baie James vers Montréal, une autre de la Côte-Nord vers Montréal, puis une autre de la Gaspésie vers Montréal. Mais on n'a pas le tracé fin de ces lignes. Et je dis qu'il y aura un BAP parce que toutes les lignes de ce type ont fait l'objet d'un BAP dans l'histoire du Québec. Puis en passant, Hydro-Québec est habitué là à cet exercice de répondre aux questions du BAP. Et on fait ça depuis, mon Dieu, ben depuis à peu près toujours. Alors moi, dans ce sens-là, je ne crie pas au scandale et je dis, ben c'est logique qu'on ait besoin de construire des nouvelles lignes parce que là, le réseau est arrivé à sa capacité. Et on veut augmenter... Quand je dis le réseau de transport est arrivé à sa capacité, on veut ajouter de nouvelles capacités sur le plan de la production hydroélectrique. Donc, clairement, il faut augmenter, il faut construire de nouvelles lignes. C'est pas compliqué à comprendre. Là. C'est 1 plus 1 égale 2. Là. Pas plus compliqué que ça.
Donc, moi, mes sources me disent qu'au contraire de ce à quoi on devrait s'attendre, Hydro-Québec va demander de lever les réglementations en vigueur pour pouvoir installer ces lignes. Notamment, ils vont vouloir passer dans les terrains agricoles, dans les milieux humides, puis ils vont demander à ce que le BAP soit réduit dans sa portée. Donc, non seulement ils vont dévierger le paysage un vrai temps, mais ils veulent le faire très rapidement parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de 10 ans pour construire les lignes et qu'ils ne peuvent pas se conformer aux règles dont nous sommes dotés. Et ça constitue, à mon avis, un scandale. Quand Legault, à mon avis, soit il a dissimulé la vérité...
Surveiller les termes parlementaires et radiophoniques.
Non, c'est bon ça. C'est bon
soit
ça.
Dissimuler
ça,
la vérité,
c'est une
bon.
Option.
Soit oui. Était en déficit d'information.
C'est une deuxième option.
soit c'est un menteur, soit c'est un imbécile. Non, j'ai pas dit. Donc, quand il a dit on est la capitale de l'hydroélectricité dans le monde, on va en vendre 20 TWh aux États-Unis, il nous a pas dit oui, mais quand je vais avoir vendu 20 TWh d'énergie aux États-Unis, il va falloir que j'en construise d'autres. Et pour en construire d'autres, il va falloir que je fasse 5000 km de lignes de haute tension. Il a pas dit ça, hein? Parce que s'il avait dit ça, les gens, ils auraient dit wow, voir que tu vas te faire 1 milliard par année pour les finances publiques du Québec, c'est pas pour lui personnellement, on s'entend. Mais que tu vas faire 1 milliard pour les dépenses publiques du Québec, mais que tu vas passer dans le parc des Laurentides, parce que entre la baie James puis Montréal, il y a quoi? Il y a le parc des Laurentides. Et entre la Gaspésie et Montréal, il y a quoi? Et au Québec, il y a quoi? Il y a la Gaspésie telle qu'on la connaît, magnifique, qui fait l'objet de reportages constamment sur la qualité des paysages. Il y a le Bas-Saint-Laurent. Et entre la Côte-Nord et Québec et Montréal, il y a quoi? Ben, il y a Charlevoix. Et puis, il y a le Saguenay, qui a déjà 3 lignes de haute tension qui passent par-dessus. Je sais pas, Nathalie, si tu peux passer un petit bout de temps à les voir quand par l'Est, si tu peux pour retourner à Québec, là, prends la 40 au lieu de la 20, là, tu vas voir les lignes de haute tension qui ont passé dans un parc. Dans un parc. J'ai jamais vu ça, sauf dans le tiers-monde. C'est une forêt de pylônes avec, ils ont tout décontre ces boirées. Ils ont tout détruit. Et d'ailleurs, ce matin même, il y a un article qui parle de la régénérescence qu'ils auraient dû faire à l'entrée d'un parc parce qu'ils avaient passé une ligne, puis finalement, ce qu'ils ont fait, c'est du délire.
Je ne sais pas en quelle année la ligne en question a été construite. Deuxièmement,
c'était pendant que j'étais au pouvoir, là. Donc, okay. C'est en 2009. En 2009 et 2019. Dernier élément, je te redonne le micro. Quand on a voulu faire ça aux États-Unis, on dit non. Les États-Unis, c'est pas des fous, eux autres, là. Eux autres, c'est pas des esclaves à la nation, là. Ils ont dit non. La ligne qui devait passer dans le Maine a finalement, la Cour a laissé passer une ligne très réduite en hauteur, mais la ligne qui devait passer par Kanawaki, puis après ça s'en aller jusqu'à New York, elle va passer en souterrain dans Kanawaki, et Kanawaki va obtenir une contribution au profit, puis elle passe en souterrain, sous la Hudson, jusqu'à New York. Sinon, elle serait pas passée. Mais nous autres, on va accepter 5000 km.
Mais tu vois, c'est parce que tu arrives déjà à des conclusions, alors qu'on n'a absolument aucun détail de la part d'Hydro-Québec. Je salue les contacts que tu as, puis effectivement, c'est peut-être vrai qu'Hydro-Québec va demander un BAP réduit. Ils vont peut-être demander de ne pas être assujettis à certaines règles, mais crois-moi, si tel est le cas, ils vont devoir se justifier, et là, le vrai débat va commencer. Ce que je trouve déplorable, c'est que on déchire notre chemise, alors qu'on n'a à peu près aucune information, sauf le fait qu'on a besoin de 3 nouvelles lignes à haute tension. Alors, comment tu peux conclure qu'on va détruire des paysages?
Je vais aller voir dans, mettons, le parc de Bont-Saint-Anne, le parc de Bont-Saint-Anne, les lignes de la partie ski de fond, là. As-tu vu le corridor des lignes de haute tension?
Oui, mais il y en a plusieurs corridors de lignes à haute tension.
T'en as-tu déjà vu un beau?
Oui, mais non, mais écoute, Luc, c'est sûr qu'il n'y a pas de beau corridor de lignes à haute tension. Voyons donc. C'est comme, ça vient avec. Écoute, tout ce qu'on fait a un impact sur l'environnement. On s'entend là-dessus. Bon, mais ce que tu dois faire, c'est développer des mesures d'atténuation pour diminuer l'impact des lignes en question. Dans ce cas-ci,
on va planter un sapin, on va te le planter là où on pense.
Mais non,
mais
dans ce cas-ci, est-ce que, par exemple, on pourrait envisager, pour protéger les paysages, d'enfouir, tu sais, certains tronçons de la ligne? Je sais pas, je pose la question.
Ben, c'est arrivé une fois au Québec, à Deschambault.
Oui, mais tu vois, alors ça, c'est...
Mais ça a coûté, à l'époque, te rappelles-tu, c'est quoi, il y a 40 ans de ça, il y a 40 ans, ça a coûté 250 millions.
Mais si je vous ramène au débat de fond, parce que, non, mais de fond, dans le sens suivant, OK, ça nous prend de l'énergie.
Oui.
Est-ce qu'on veut se planter des centrales nucléaires en Gaspésie? Est-ce qu'on veut avoir des centrales thermiques? Non, mais on veut pas ça.
Premièrement, on fait ce que Pinault a dit qu'on devait faire, on arrête l'exporter aux États-Unis.
OK, mais... Toi, ce que tu t'as pas encore dit, là, je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que tu pousses ça rapidement. Faut réduire notre consommation.
Et voilà.
Bon. Et c'est entre autres ce que dit Pinault. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pourras pas produire plus d'électricité sans passer des lignes de transmission. Puis là, déjà, je voyais en Gaspésie des producteurs agricoles qui sont en feu parce qu'ils disent, ils veulent nous planter des éoliennes, puis on n'en veut pas.
Mais sais-tu quoi? Je comprends le débat.
On veut pas d'éoliennes, on veut pas de pylônes, on veut pas.
C'est la cage à homards. C'est l'entonnoir. D'abord, on vend notre énergie aux États-Unis. Deux contrats de 10 TWh. Après ça, on fait 20% de réduction sur les contrats industriels, sur le tarif L, à des centaines d'entreprises. Après ça, on avait vidé les surplus de 40 TWh. Là, oh, Simonac, on a plus d'électricité. Hey, je regarde ça, là, moi, là. On n'a plus d'électricité. Comme si c'était un fait de la nature qu'on avait pris. C'est le cumul de décisions qui ont été prises par le gouvernement Legault. Puis après ça, il arrive et il dit, il va falloir
d'ailleurs,
passer
là-dessus, j'ouvre une parenthèse, Pierre Fitzgibbon, il l'a facile pas à peu près, là. Écoute, il nous dit après ça, on va devoir faire des sacrifices, pardon. C'est toi, comme ministre de l'Énergie, qui a dilapidé tous les mégawatts qui étaient disponibles. Puis tu penses que ça va passer comme du beurre dans le poêle, ça, là? Écoute, j'en reviens pas de ces réponses. Encore hier, ils nous ont rappelé le fameux mot, ce qui est devenu son mantra. Va falloir faire des sacrifices avec la construction des lignes à haute tension. Non, mais pourrais-tu, premièrement, monsieur le ministre...
T'en mets une sur l'île aux faisans, moi, des lignes à haute tension. Tu vas voir si on va en faire des sacrifices.
Non, mais c'est fâchant. Alors, honnêtement, moi, je connais des ministres qui auraient perdu leur poste pour avoir fait ce qu'il a fait. Écoute, un ministre dilapidé autant de mégawatts. D'ailleurs, d'ailleurs, je me dis, les oppositions sont où pour lui poser des questions? Moi, il sera en commission parlementaire. Ben oui. Il se ferait interpeller. Donne-nous la liste des projets qui ont été acceptés pour faire en sorte qu'on se retrouve d'aujourd'hui, gros gens comme devant, avec zéro marge de manœuvre et tout le trouble que ça crée, là. Parce que juste les lignes à haute tension, on parle d'un investissement de 10 ans qui va coûter autour de 50 milliards de dollars. J'ouvre une autre parenthèse. La ligne, c'est 735 kV. Luc, tu sais sûrement comme moi que c'est une invention québécoise.
Oui, oui, oui.
Un ingénieur d'Hydro-Québec, M. Archambault. Monsieur Jean-Jacques Archambault, ça a été créé en 1965. C'est unique, d'ailleurs, c'est une technologie qui est exportée. Pourquoi on a créé ça? Parce que compte tenu de la distance entre les grands barrages, par exemple, à vol d'oiseau, Bay James, Montréal, c'est 1000 km, pour s'assurer que la puissance, le courant, en fait, l'électricité puisse... en fait, l'objectif, c'est pas de perdre...
Soit maintenu.
C'est ça. Ouais. On parle de courant continu pour qu'il y ait le moins de perte d'électricité possible. C'est pour ça qu'on a créé cette technologie.
Mais t'as vu Nordvolt? Hier, j'ai lu la puissance demandée par Nordvolt. Je tombe en bonne
machine. C'est l'équivalent de la consommation de la ville de Longueuil.
C'est la moitié de la romaine. Je veux dire, après ça, tu dis, oui, mais il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus. Mais il faut construire les lignes d'haute tension tout partout. Il n'y en a pas de pays.
Luc commence à avoir un petit moment de faiblesse. Si vous me permettez, on va aller à la pause. On vous retrouve demain.
C'est 23.